Mi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une terreur, il y a une panique ce matin, tout est différent. Il y a comme une peur là-haut, posée sur ma tête, une angoisse. Ces matins, là où même les doigts n'y arrivent pas, les cheveux. La brosse, c'est même plus la peine, Le Pen, il est mort, il y a longtemps, il est parti. Tu rêves presque de calvitie, des matins où dans le miroir, c'est un type bizarre, hirsute. Avec le cheveu qui aboie, la caravane qui passe ou pas. Il y a des machins qui ressemblent à des matins qui ressemblent à des machins. Des moments où sur ta tête, il y a des choses posées qui ne ressemblent plus à toi, comme un hérisson qu'on aurait mis là. Un porc-épic, quelqu'un qui crie là-haut, perché, sur toi. Le reste du corps, lui, a l'air sage, debout, comme d'habitude, les mains agiles, les doigts, les pieds. Le ventre à peu près tranquille, le cœur qui bat, pour qui quoi. C'est le cheveu là-haut, là-bas, qui panique, qui n'en veut plus, qui n'en peut pas. Le cheveu qui sait que c'est passé, qu'il faudra reparler d'autre chose que ça. Celui qui est monté là-haut à l'Élysée ou quoi. C'est le cheveu, lui, là-haut, qui s'est révolté contre le retour à soi-même, à l'intimité, à d'autres conversations, à d'autres envies, à d'autres obsessions, à d'autres ennuis, à d'autres rêves aussi. T'as des cheveux dans la tête, on dit. Faudrait se faire un chemin à travers les broussailles intimes, à travers tes secrets, comme une forêt, comme des cordes entrelacées. Comme un océan de mystère, en fureur, en furie, c'est ta liberté posée là-haut sur ta tête, et puis ceux qui n'en ont pas. Les Kojak, les Yul Brynner, les autres. Alors ils les ont mis dedans, ils les ont dans les rêves, au fond des yeux, leurs cheveux. Les cheveux, c'est quoi? C'est simplement des choses qui masquent la réalité de la peau qui vieillit. Alors il faut la planquer aussi. Allez, il va falloir parler d'autre chose enfin. Rêver, rire, relire. Salut. Allez, on va se coiffer, on va t'y réparer. Nana.
Plus près de toi.
Très, très près.
Nana.
C'est le titre de l'émission.
Juste avant d'aller à l'école, c'est parti.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird. Pouette
la hurlette, tagada la queue du rat.
Mon amour, c'est toi.
Bientôt les élections.
Oui.
Pensez
déjà
à...
Dans 5 ans.
Ah oui. Thierry Parel. Bonjour Thierry.
Bonjour. Il y a des législatives avant. Je t'ai vu sur la RTBF ce week-end, dis donc, en train de prendre ton billet de train. Pour aller voter.
Ah oui, ils m'ont chopé la télévision belge, ils m'ont dit...
Eh ben, je t'ai vu, figure-toi.
Ils croyaient que les gens partaient en week-end, et moi je dis que je votais à Arles et tout ça, ils ont essayé de me coincer, ces Belges.
Ah oui. Et ils ne t'ont pas eu.
Non. J'ai plein d'autres phrases ennuyeuses.
Emmanuel Macron a donc entamé sa mue présidentielle, il a notamment mis ses pas hier dans ceux de François Hollande, lors de la commémoration du 8 mai 45, sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. La passation de pouvoir aura officiellement lieu dimanche prochain, à 10h du matin, le président sortant, il en a profité pour adresser ses vœux de réussite à son ancien conseiller et ministre. Il s'est émancipé, mais il ne m'a pas trahi, c'est ce qu'il a déclaré. On serait tenté d'y voir un lien avec l'élection d'Emmanuel Macron. Christian Estrosi, le président LR de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, a décidé de démissionner de son poste. L'ancien ministre tout court, ça suffira, annonce sa volonté, c'est déjà pas mal, annonce sa volonté de retrouver la mairie de Nice. Ma seule ambition, je le cite bien sûr, c'est de servir ma ville et ma région, pas d'entrer au gouvernement, c'est
oui,
ce qu'il a déclaré.
Christian Estrosi, c'est pas long.
Voilà,
c'est
pour
bien.
Mettre.
Mais attention, je ne fais pas de la politique, je ne me mettrai pas. C'est bien. Non, pour lui, c'est bien. Bah, c'est pas voilà. Non, bah, c'est Christ. Voilà. Non, bah,
c'est que Christian Estrosi.
Voilà, non, mais. Ah,
oui.
Attends,
parce que les gens, vous savez, les gens, ils disent oui, Christian Estrosi, Christian Estrosi. Bah.
Christian Estrosi. Hein. Ouais. Voilà.
S'il y a bien une personnalité à droite qui pourrait rejoindre le prochain gouvernement, c'est bien Bruno Le Maire. Il est absolument partout en ce moment, ces derniers jours, ces dernières heures. L'ancien candidat à la primaire a confirmé hier d'ailleurs s'être entretenu avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a reçu des messages de félicitations d'à peu près tous les chefs d'État de la planète. On ne va pas tous les citer. Il s'est entretenu aussi au téléphone, et là on peut les citer, avec Donald Trump, avec Theresa May, Justin Trudeau, Recep Tayyip Erdogan ou encore Angela Merkel. Et justement à propos de l'Allemagne, c'est Nicolas Sarkozy Sarkozy, hein, qui avait initié cette coutume. La première rencontre internationale du nouveau président sera pour la chancelière allemande, Angela Merkel, et ce sera certainement la semaine prochaine.
Oui, mais imaginez qu'il y a par exemple, je ne sais pas, la reine du Danemark, le président de Hongrie, un vague prince suédois, quelqu'un de Monaco qui les fait citer, ça tout le monde s'en fout. Alors dès qu'on n'est pas... Non, alors moi j'ai envie de dire, tiens, un petit télégramme, bravo monsieur le président.
Là, je ne pourrais pas en parler.
Vous ne pourriez pas en parler.
Bah non,
au nom
ça
de quelle
pas...
déontologie vous n'en parleriez pas et vous n'aimez donc que les puissants, les riches et les maîtres du monde, il paraît.
Bah c'est ça. C'est exactement ça. À un moment donné, maintenant que mon candidat est élu, je peux me lâcher.
Votre candidat, vous abattez les cartes.
Ah bah
c'est donc la fameuse radio Mathieu Pigasso, Thierry Pareto, macroniste. Je m'en doutais de ce complot.
Prochain défi pour Emmanuel Macron, les législatives. Ça s'annonce moins simple, hein, évidemment. Il a démissionné hier de la présidence de son mouvement En Marche, qui va devenir La République En Marche. C'est en tout cas sous cette étiquette que ses candidats se présenteront aux législatives des 11 et 18 juin prochains et on connaîtra leur nom jeudi prochain. Pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait réussi à geler le calendrier judiciaire qui la vise. Un certain nombre de procédures devraient désormais reprendre leur cours. Je vous rappelle les résultats définitifs de cette élection, hein, au cas où vous ayez hiberné quelques jours. Emmanuel Macron, 66,10%, donc contre 33,90% pour Marine Le Pen. Il y a eu près de 12% de vote blanc ou nul. Il y a eu en outre plus de 25% d'abstention, soit l'abstention la plus élevée lors d'un second tour depuis la présidentielle de 69. La gauche, à l'époque, absente du second tour, avait refusé de choisir entre les deux candidats de droite qualifiés à l'époque de bonnet blanc et blanc bonnet. En tout cas, entre vote blanc nul et abstention, un tiers des Français ont refusé de choisir dimanche dernier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et puis il y a aussi les nombreux électeurs qui ont choisi de voter Macron mais sans conviction. Près de 35 000 d'entre eux ont participé à l'opération Deuxième Bulletin, opération numérique qui visait à remplir un bulletin virtuel sur Internet pour signifier au président élu qu'ils avaient voté par défaut. Le reste de l'actualité, c'est notamment cette très grosse opération de police cette nuit, Gare du Nord à Paris. La police était à la recherche de trois hommes qualifiés de dangereux, censés se trouver dans un train en provenance de Valenciennes. Les 200 passagers du train ont été contrôlés sans succès. La gare a été évacuée durant plus de deux heures. Et puis mission très difficile, sinon impossible pour Monaco ce soir en demi-finale retour de la Ligue des champions de football. Les Monégasques sont attendus sur le terrain de la Juventus de Turin, la Juve qui s'est imposée 2-0 au match aller. C'était la semaine dernière.
Hein ?
Oui ?
Vas-y, y a eu. C'est fini ?
Oui.
Oui, c'est terminé.
Il y avait un peu de foot et on a parlé
des... Un petit peu de croissant.
Voilà.
Pas mentir à l'auditeur, il y a eu un petit peu de croissant.
Oui, c'est vrai. Vous aviez
je ne vous cache pas, il y a eu un petit bout de Macron et sur un début de foot, j'ai voulu en profiter pour faire une petite bouchée de croissant. Il n'y a pas... C'est pas du,
une petite
c'est pas
croissant d'aiguë.
C'est tout à ton honneur de l'avouer.
Voilà, parce que je crois qu'il n'y a pas de manque de respect pour l'auditeur qui est peut-être lui-même en croissantade à ce moment-là, ou qui est peut-être en savonnage, ou qui est peut-être dans un... aussi dans ce...
C'est honnête.
On est là, et vous, Atmen, vous avez passé un bon week-end ?
Oui, j'ai fait la fête un peu.
La fête.
Une petite fête entre amis, comme ça, quand même. J'étais content que le parti républicain soit là, quoi. Voilà, c'est tout.
Alors, si vous êtes, vous trouvez que ça aurait été plus sympa avec Marine Le Pen, appelez notre hotline 12 24 45 38. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
On va.
Vous avez suivi des soirées électorales, des commentaires. Des choses politiques ou des choses plus intimes. Par exemple, vous, Atmen, vous êtes replié un peu sur votre famille.
J'étais sur ma famille.
Vous avez arborisé
ou... Non, j'étais sur la soirée électorale, j'étais en famille. Ma fille est allée faire un goûter chez des voisins.
Ouais.
Très, très sympathique, un ami photographe qui est dans le quartier. Vous savez, ça se fait. Alors, tous les enfants ont joué, ils ont fait des jeux, ils ont chanté, ils ont dansé sur du Michael Jackson. Et quand on est rentré les chercher, ils ne voulaient plus partir. Alors, avec les parents,
souvent,
la tradition, c'est d'ouvrir une bouteille de champagne et de parler un peu de nos enfants.
Et en plus, c'est vous qui voulez rester, les enfants veulent
rentrer. Oui, voilà, moi je voulais rester. Mais...
C'est ça, c'est jamais au même moment.
Voilà, c'était ça.
Il y a ça fait partie du club des connoisseurs, ça, Armel ?
Non. C'est si on veut. Enfin, moi,
on commence maintenant, plutôt. Les voili, les voilà. Ils se sont renseignés, ils se sont curiosifiés, ils ont ouvert grand leurs yeux et leurs oreilles pour vous faire partager ce matin le résultat de leur pêche. Marie Missé, bonjour.
Bonjour Edouard Baird.
Marie, vous arrivez avec deux seuls journaux ce matin dont vous avez sans doute tiré quelque chose. C'était Libération et Le Figaro. Donc
comme ça.
C'est un champ.
C'est
assez vaste
parties.
Comme spectre. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé ce matin, vous ?
Et un concours qui ne manque pas d'air. Où ça se passe ? Au Palazzetto Brusen, c'est à Venise, un centre de musique romantique française où ils invitent les gens à se comparer à des chanteurs d'opéra assez connus sur la seule base, sur une seule consonne, le R. Donc il faut faire le plus beau R possible. Et si on fait un R plus beau qu'un chanteur d'opéra, on peut gagner des places après.
C'est un R roulé ?
Alors ils disent justement toute la question, est-ce qu'on est plutôt bout de la langue ou fond du gosier ? Okay. Est-ce que c'est plutôt rrr ou rrr?
Oui.
Ça. Et apparemment,
c'est
le...
très dur de noter quelqu'un sur un R.
Ah, oui, la vie est compliquée.
Pour nous, c'est difficile. Non,
vous
nous,
vivez dans un monde très protégé.
Très protégé.
Mais il y a des gens qui se coltinent à la réalité.
Sur, oui, sur oui. R.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé alors?
Alors, apparemment, ça soulève beaucoup de débats parce qu'en fait, cette histoire de la question des R, c'est la question de la compréhension des textes en français quand on les chante en chantant comme des chanteurs d'opéra.
Ah, ils ne prononcent pas les R parfois?
Oui, il les prononce pas bien.
Rigoletto. Mais il y a des gens qui ressemblent à Pavarotti, à qui, à Placido Domingo, parce que c'était ça en fait le but du concours.
Contre qui on est, bah, par exemple,
mais c'est
le
pas,
ténor.
Si c'était des teneurs, ouais, des ténors ou des baritons.
Il y a des ténors, des sopranos, enfin il y a toute la gamme.
Qui a gagné?
Bah là, je sais pas, on ne sait pas.
Bon, j'aime bien cette info, elle m'apprend rien.
Elle
m'a fait, vous savez, avec ce qui se passe en ce moment, depuis que j'ai rempli mes mots fléchés, j'avais plus rien ce matin. Bah, j'ai ma petite info de Marie Missé.
Voilà. Oui,
comme ça, aux collègues, quand j'arriverai ce matin.
Hop, vous voulez un sucre dans le café?
Oui, oui. J'entends pas ce qu'il dit. Armel, vous voulez qu'on renvoie Atmen Khelif, où en est-il ce matin?
Oui, moi, j'étais très choqué par le fait que.
Attention, oui. Vous l'êtes encore ou pas?
J'ai eu peur, surtout.
Voilà, mais ça va mieux, là.
Ça va un peu mieux.
Bon, voilà. Dit par quoi ou ça suffit juste de savoir que vous avez été choqué?
Peut-être qu'on peut rester là-dessus.
Par quoi? Qu'est-ce qui vous a...
Non, le 10% de la calotte glaciaire est en train de se détacher de l'Antarctique.
Quoi?
Oui. C'est l'équivalent du département de la Creuse, qui se détache, un iceberg, un département flottant qui arrive vers nous. Voilà, ça fait peur.
Comment ça, vers nous?
Mais qui arrive, qui est en train de se détacher et qui descend comme ça.
Ce qui vous fait peur, Atman, c'est que ça arrive vers nous ou ça se détache de la calotte.
Que ça se détache, c'est un iceberg qui va se fondre donc et faire monter le niveau des eaux.
D'accord, c'est plus. Mais quand vous dites nous, c'est vous?
Ben nous les êtres humains, les hommes.
Non, vous les détachez pas, oui. Mais non, ça va à fond, donc les eaux vont monter.
Les eaux vont monter, et donc ça fait peur.
Mais vous pensez qu'on va d'abord mourir de ça? Ou d'une astéroïde qui arrive sur la Terre?
Oh, des deux, le
ou
grand.
D'une pandémie ou d'une nouvelle maladie dont on a découvert une nouvelle épidémie au Libéria. J'ai plein de nouvelles joyeuses, moi aussi.
Mais oui, Non, la bonne nouvelle, c'est que les imitateurs et les dessinateurs sont un petit peu dans la mouise, parce qu'il est très difficile d'imiter Macron et très difficile de dessiner. C'est une bonne nouvelle, comme ça on un petit peu avoir la paix. Non, mais c'est vrai.
Moi, j'ai trouvé assez beau cette traversée du Louvre. Je trouve j'aime bien les rituels comme ça, j'aime bien quand la République française, liée à son histoire, est un petit peu grandiloquente comme ça. Les gens adoraient ça chez Mitterrand aussi.
Les ors de la République, oui.
Moi, je ne suis pas un présentateur d'émissions normales. Tout de suite.
7h, 9h, Edouard Baird. Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Mais combien de temps il a duré cet écran pub?
Alors là, on avait 4 bonnes minutes.
Oui, bah alors allez-y, mettez que de la pub et puis de temps en temps, j'irai vous chanter. Non, mais c'est incroyable.
Ah, m'engueulez pas.
Mettez quelque chose de musical, on se retrouve avec Dominique Reynier. On essaie d'équilibrer un peu dans le contenu, la grande actualité, la politique, la géopolitique, l'internationopolitique, la nationopolitique et puis notre vie à nous. Mais il faut aussi, on peut pas nier qu'il y a eu des élections, Dominique Reynier, quand même.
Bonjour, hein? Robert. Non.
Non, mais quand on a la chance d'avoir Dominique Reynier, alors comme ça, une fois par semaine, au moins, on peut avoir le meilleur et avoir un esprit avisé qui nous tient au courant. Dominique, voilà, on a un nouveau président, on a une annonce législative, il y a un nouveau parti qui se crée. Comment vont se passer, d'après vous, les semaines, les mois à venir?
Ce qui est très intéressant, Edouard Baird, maintenant, c'est qu'après l'élection d'Emmanuel Macron, son parti, c'est le premier président qui arrive au pouvoir sans avoir un parti. C'est la première fois que ça se présente. Hein, ça. Donc c'est une situation inédite. Il faut la regarder avec des yeux nouveaux, du coup, parce qu'il ne faut pas chercher dans l'histoire des moments qui nous l'expliqueraient. Il y a donc une offre nouvelle, qui est celle-là, et voir comment les autres partis politiques, ils sont toujours présents, en difficulté, puisqu'ils ont été éliminés du premier tour, vont essayer de résister, voire de renaître à ce moment-là. Et donc, on est vraiment là dans une espèce de moment où, réellement, il y a quelque chose de nouveau qui est en lutte au sens propre avec des organisations anciennes, classiques, et qui savent que si, clairement, le Parti socialiste ou les Républicains échouent aux législatives, n'ont pas la majorité, c'est probablement la fin pour ces organisations. Là, c'est vraiment... C'est la dernière étape avant la disparition, la présidentielle ayant déjà fortement entamé ses organisations politiques, à l'exception du Front National, puisqu'étant au second tour, Marine Le Pen ayant fait malgré tout en nombre de voix un score historique, plus de 10 500 000 voix, c'est-à-dire 3,5 millions de plus que son premier tour. C'est colossal hein, comme progression. C'est deux fois plus que son père en 2002 en nombre de voix. Donc il y a pour le Front National une espèce d'assurance de devenir un parti de référence pendant le quinquennat qui s'ouvre. Il reste pour les autres partis politiques à survivre, à s'organiser pour essayer de se rénover.
Alors j'ai écouté un petit peu Richard Ferrand hier, là, le secrétaire général du mouvement En Marche. Ça m'a l'air un petit peu compliqué, il va y avoir des candidats juste En Marche et des candidats qui resteront dans leur parti, que ce soit à gauche ou à droite, plus l'étiquette En Marche additionnée, c'est ça, pour
oui,
les législatives.
Alors c'est très compliqué parce que en fait au départ, je ne sais pas comment ils ont décidé ça, mais au départ En Marche, Emmanuel Macron a multiplié les contraintes pour eux-mêmes. Déjà, créer un nouveau parti, quand vous venez juste d'être élu président, c'est très compliqué. Avoir 577 candidats, c'est quand même très compliqué. Il faut trouver de bons candidats, etc. Mais ils ont en plus ajouté des contraintes. Alors, il y a des contraintes légales, la parité, évidemment, mais des contraintes du type issu de la société civile, le renouvellement. Bref, c'est un casse-tête chinois. C'est très, très difficile de trouver des solutions. Donc, ils commencent à assouplir beaucoup. Assouplir, on verra si c'est beaucoup, les contraintes. Par exemple, il va devenir apparemment également possible de se réclamer de la société civile en ayant été élu précédemment à plusieurs reprises. Il y a aussi des candidats
en marche. C'est possible
non, ça va être possible.
Ah bon ?
Oui, ça va être possible. C'est une espèce d'assouplissement un peu curieux. Hein.
Oui.
Il y aura aussi des candidats qui, en réalité, en seront à leur quatrième ou cinquième mandat. Donc le renouvellement ne sera pas toujours au rendez-vous dans toutes les circonscriptions. Mais c'est parce que c'est trop difficile. On ne peut pas multiplier les contraintes quand déjà on a une contrainte majeure qui est de créer un nouveau parti politique. Et d'aller, encore une fois, c'est plus difficile à expliquer avec des notions conceptuelles, mais comme on dit sur le terrain, moi c'est une expression que j'aime pas beaucoup, je la trouve assez désagréable, mais en tout cas, lorsqu'il faut faire campagne, vous avez des réseaux d'élus qui sont déjà là depuis longtemps ou depuis toujours.
Ils vont gueuler quand même.
Et ce sont les partis,
oui.
Vous voyez.
C'est eux qui soutiennent, oui c'est ça, c'est eux qui de toute façon vont aider même le candidat de la société civile à faire campagne. Il faut bien faire campagne, que vous soyez employé, médecin, cadre ou avocat.
C'est essentiel, oui. Il faut faire campagne, il faut savoir gérer un compte de campagne. Enfin, il y a plein de choses très techniques et toutes bêtes mais qui sont indispensables. Et là vous allez avoir tous les élus du Parti Socialiste, municipal de 2014, départemental, régional, tous les élus de la droite et du centre, mêmes élections, qui sont là par dizaines de milliers, qui ont tramé le territoire depuis longtemps,
oui.
Qui ont des réseaux d'obligés, des clientèles, et c'est pas péjoratif, c'est comme ça que ça marche aussi, mais il n'y a rien de péjoratif ni d'illégal là-dedans, ce sont des relations anciennes, territorialisées, dans des amicales, des associations, etc.
C'est ça, moi je vois comment c'est une campagne, on peut dire que vous aussi, puisque vous avez été beaucoup
2015,
mieux que moi, vous avez été candidat de la société civile.
Absolument, sans carte de parti.
Donc il y a quelqu'un qui vous prend en main là-bas, qui vous dit qu'il faut rencontrer le mec de telle association, tel mouvement, les retraités, les boulistes.
Oui, mais surtout vous avez contre vous, c'est ce qui va se passer pour les candidats d'Emmanuel Macron, ils auront contre eux des candidats qui sont soutenus par des organisations architecturées, charpentées, peut-être pas très populaires, peut-être que les Français en ont assez, mais il se trouve que c'est encore ce qui organise le monde, c'est normal, puisque c'est ce qui est en train de disparaître, c'est encore présent. Et donc c'est là qu'il va y avoir une épreuve de vérité. Si Emmanuel Macron obtient une majorité absolue ou un groupe suffisamment important pour gouverner dans le cadre d'une coalition où il aurait la part principale, ce qui est une possibilité, c'est les Français qui vont en décider, et vraiment c'est une possibilité, alors c'est vraiment le moment où il va fonder son quinquennat, et ce sera un quinquennat où il aura toutes les cartes en main. Ce sera difficile de gouverner, mais ça c'est toujours difficile, mais il aura toutes les cartes en main.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'être de la société civile, il faudrait aussi qu'on accepte que les candidats se comportent différemment sur le terrain. On ne peut pas toujours dire « il ne vient jamais nous voir ». Dans ces cas-là, aller voir les gens, c'est le métier des politiques. Quelqu'un qui travaille ne peut pas faire 12 amicales, 14 repas, des fêtes.
En plus, c'est des choses sur lesquelles ce serait un sujet passionnant, d'ailleurs aussi d'Orbert, ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller voir les gens enfin,
Non, mais il croit que physiquement, beaucoup de gens croient qu'en étant là physiquement, ça veut dire qu'on va s'occuper
absolument,
d'eux.
Alors
absolument.
Alors
que moi, je vois Atmel là tous les jours physiquement, je n'ai jamais fait un geste pour lui.
C'est vrai.
Vous venez de me réveiller en tout cas.
Merci
pour moi. Non, j'écoute. C'est passionnant.
Non, mais c'est un moment de changement culturel. Et alors, juste une petite remarque encore. Comme vous le savez, puisque ça a été commenté, il y a des effets passionnants en ce moment. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne se représenteront pas. Luc Châtel ce matin disait j'arrête, je ne me représente plus. Il y a 150 parlementaires, députés qui ne vont pas se représenter. Certains, Luc Châtel disait ça en des termes très intéressants. Un peu comme Lelouch, il disait, Luc Châtel, Bah, on a un nouveau président, il a 39 ans, on me fait un signe, quoi, au fond, ça y est, quoi, j'ai fait mon temps, il faut que je passe la main. On se sent poussé, il y a quelque chose au sens où il faut laisser la place à de nouvelles figures et de nouvelles générations. Ça veut dire aussi que du côté des partis classiques, il y aura beaucoup de candidats pas connus. Ce qui, du coup, réduit l'inconvénient d'En Marche pour la partie qui concerne ces 150 parlementaires qui ne se représentent pas. Mais il y en a 577, beaucoup se représentent malgré tout, et donc il y aura une espèce de compensation. D'un côté, ils ne sont pas très connus et on ne connaît pas En Marche, c'est vrai. De l'autre côté, il y a une prime, c'est le président, il vient d'être élu, et on en parle beaucoup, et donc ça va l'aider à avoir quelques élus.
Merci Dominique Régnier.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Qui font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baird.
Très dans les termes.
Mais enfin, écoutez, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Mais non, mais je voudrais que ça se passe mieux.
Mais ça va se passer bien. T'inquiète pas. Mais votre fille vivra dans des prairies avec des fleurs, dans un grand jardin. Le journal de Thierry Paris. Oui, il est 7h32. Mmh. Ça va. Si vous n'êtes pas content, allez dans une grosse radio périphérique où à 7h30 pile, on coupe les machins et où il y a des pubs pour les bagnoles. Hein, on en a aussi. Bon, bah alors, c'est bon.
En attendant les champs et les fleurs, grosse opération de police cette nuit. Gare du Nord à Paris, des dizaines et dizaines de policiers armés de fusils d'assaut et de casques ont procédé à l'évacuation et la fermeture du site vers 23h jusqu'à 2h du matin. Ils étaient à la recherche de trois hommes qualifiés de dangereux censés se trouver dans un train en provenance de Valenciennes. Les 200 passagers du train ont été contrôlés sans succès. Les trois hommes recherchés ont été signalés par un pays dit partenaire. Depuis vendredi, ces trois hommes ont été signalés à Paris, mais aussi à Bordeaux et Marseille, déclenchant à chaque fois un important dispositif policier en vain. Cap sur les législatives, prochain défi pour Emmanuel Macron. Le nouveau président de la République a démissionné hier de la présidence de son mouvement En Marche, qui va devenir La République En Marche. C'est en tout cas sous cette étiquette que ces candidats se présenteront aux élections des 11 et 18 juin et on connaîtra leur nom a priori jeudi. Auparavant, il s'agit de former un gouvernement. On serait tenté d'y voir un lien. Christian Estrosi, le président LR de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, a décidé de démissionner de son poste. L'ancien ministre annonce sa volonté de retrouver la mairie de Nice. Ma seule ambition, c'est de servir ma ville et de retrouver la mairie de Nice. Ma seule ambition, c'est de servir ma ville et ma région. Pas d'entrée au gouvernement, c'est ce qu'a déclaré notamment Christian Estrosi pour mettre un terme aux rumeurs qu'il annonce comme l'une des personnalités qui pourrait rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a reçu des messages de félicitations du roi du Maroc, Mohamed VI, de Vladimir Poutine, de la présidente chilienne Michelle Bachelet, pourquoi du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas.
Arrêtez de prononcer bien les noms arabes et pas les autres noms.
J'en étais
si
sûr.
Si vous dites Mohamed
VI,
Theresa May. Si vous voulez absolument dire dans le texte tous les noms.
Benjamin Netanyahu aussi.
Seulement cette mauvaise conscience de journaliste un petit peu de gauche sympa qui veut absolument montrer qu'il a mis des arabes.
Comment
donc
on dit
prononce
Shinzo
bien.
Abe.
Alors que les Russes et les Anglais, vous n'avez pas montré que vous êtes amis. Hein,
comment on dit Shinzo Abe en japonais.
On ne le dit pas. Moi, j'évite de parler de lui.
Shinzo Abe aussi.
Shinzo Abe, prononcez bien tous les noms de famille.
Et Narendra Modi aussi, Premier ministre indien. Enfin, Macron s'est surtout entretenu au téléphone depuis hier avec plusieurs dirigeants étrangers, dont Donald Trump, Theresa May, Justin Trudeau, Recep Tayyip Erdogan et puis Angela Merkel aussi. Et justement, à propos de l'Allemagne, c'est Nicolas Sarkozy qui avait initié cette coutume. La première rencontre internationale du nouveau président sera pour la chancelière allemande et Angela Merkel est donc à certainement la semaine prochaine. Je ne veux pas vous rappeler les résultats définitifs, vous les connaissez maintenant. Mission très difficile. Sinon,
cette phrase était plus longue que si vous les aviez données.
Non, je ne crois pas, parce qu'il y avait aussi l'abstention, les nuls, les blancs, ça faisait beaucoup. Et puis mission très difficile, sinon impossible pour Monaco ce soir en demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Les Monégasques sont attendus sur le terrain de la Juve. La Juventus de Turin qui s'est imposée 2-0 au match aller la semaine dernière.
Ne donnez pas les résultats de Monaco qui n'est pas une démocratie. Ne donnez pas les résultats d'équipes de foot de pays dictatoriaux.
Un dernier mot quand même.
Quand c'est la Corée du Nord, vous ne donnez pas les résultats, alors ne donnez pas Monaco.
Ce sont les Rolling Stones qui vont inaugurer la U Arena, le nouveau stade couvert de Nanterre-la-Défense. Ce sera les 19 et 22 octobre prochain.
Quelle journée à foutre.
Quand même,
c'est un groupe de vieux dans une salle moche avec un nom à la con. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je te le demande, je te le mets en mille.
Ils sont plus vieux que Macron. C'est drôle.
C'est les pères. Vous savez que Macron est le fils d'un des Rolling Stones.
Lequel?
Qu'est-ce qu'on fait? Thierry Paret dans la rue? Ah bah Thierry Paret, il a sa tradition.
Non, Jacques, souvent.
Oh, écoutez, soyez gentils, cette histoire de prénom. Parce que tout à l'heure, Dominique Régnier, il a parlé de Louche et Philippe Lelouch, et pas ni Claude ni Gilles. Qu'est-ce qui se passe?
Et puis, ça ne nous empêche pas de marcher.
De marcher?
De se réveiller. Ça ne gêne pas.
Mais non.
C'est Georges Marchais qui a été élu ?
Non, bah, on est chez Philobert au kiosque à Croix-de-Chavaux à Montreuil. Et alors, ça parle politique, mais ça parle aussi barbe, rasage.
Oui, bien sûr. Vous direz, est-ce que vous pouvez faire une commission à ce monsieur ? Dites-lui d'installer une machine à café.
Il faut une machine à café.
Café, oui, dans le kiosque de monsieur Philobert, oui.
Dans le kiosque, il faudrait une machine à café, monsieur ?
C'est ça, c'est ce qu'ils disent. Il y a des demandes. Il y a des demandes, les gens sont contents de venir par ici.
Mais parce que c'est un monde nouveau, alors peut-être il y a des nouveaux désirs, des nouvelles envies, on veut que ça reparte de zéro.
Exactement, et comme la presse est en train de s'écrouler tout petit à petit, alors il faut trouver un autre moyen de subsistance.
La presse s'écroulerait comme un château de cartes. Est-ce que c'est le fait que le papier soit si léger, volatile, qui fait que la presse s'écroule ?
Non, le papier sur du bois, ça brûle plus vite.
Donc plutôt que de laisser s'écrouler votre kiosque à journée, il faudrait le brûler pour voilà. Se réchauffer l'hiver ?
Exactement. Voilà, au moins on passe, on essaie de respecter la loi de... La loi de la nature qui disait chaque fois, il faut transformer. Alors, c'est... qui disait ça ? Rien ne se transforme, rien ne crée.
Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
Se transforme, voilà. Exactement.
Et un vieillard qui meurt, c'est un kiosque à journaux qui brûle.
Exactement.
Et dites-moi, cher monsieur Philobert, maître kiosquier à la Croix-de-Chavaux à Montreuil, est-ce qu'il y a caché sous vos journaux quelques exemplaires de mensuels ou de magazines que vous avez entièrement oubliés depuis 8 ans et dont vous avez même oublié le nom ?
Ah oui, bien évidemment. Je suis dans un gros problème ici. Je suis dans un kiosque qui devait contenir 1500 magazines et je me retrouve à 4500. Vous voyez le fouillis ?
Ah oui.
C'est un gros problème. Alors, je devais avoir 1500. C'est comme si on vous disait de remplir une jerrycan de 5 litres avec une cuvette de 10 litres d'eau.
Ah oui, c'est un problème qu'on oui. C'est un voilà. Problème qu'on poserait pas aux enfants en primaire.
Effectivement.
Est-ce que comme les grands libraires, tout à coup, on vous dit, est-ce que vous avez Yacht Magazine Côte d'Azur ? On dit, oui, je dois l'avoir quelque part, et vous disparaissez au fin fond de votre kiosque.
Effectivement, c'est ce que je dis quelquefois. J'ai dit, repasser pour la prochaine fois, je vais essayer de trouver dans 5 minutes. Mais quand ils reviennent, je me barre tout de suite.
Alors dites-moi, en ce surlendemain d'élection, est-ce que vous avez senti le vent tourner dans des achats de presse ? Est-ce que les habitudes sont différentes ce matin ?
Les habitudes ont bien changé, mais pas tellement. Disons que la curiosité faisait qu'il fallait donner la majorité au nouveau président. Mais ce qui m'étonne dans le langage des gens, il gouvernera avec qui ? Alors, tout le monde est à 20%. Si c'était l'autre qui passait, il va gouverner avec qui ? Alors, les gens ne se posent pas cette question. Ils disent tout le temps, telle personne gouvernerait avec qui ? Alors, eux-mêmes, ils gouverneraient avec qui ? Puisqu'ils ont 20%.
Vous-même, vous gouvernez avec qui ?
Ah ben, je gouverne avec moi-même, oui.
Donc, vous êtes une monarchie, une dictature, une autocratie ? Vous êtes un conseil des sages ? Vous êtes quoi, vous, tout seul ?
Conseil des sages, c'est encore mieux.
C'est comme Renaud qui était une bande de jeunes à lui tout seul, quoi. Vous êtes un conseil des sages à vous tout seul.
Voilà, voilà, non, pas tout seul, puisque tout le quartier sait qu'ils ont affaire à un sage dans le coin.
Et vous avez senti plutôt une bonne humeur, là, depuis 2 jours ?
Oui, 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 mais pas vraiment, parce qu'il se pose toujours la question, il va gouverner avec qui ?
Oui, vous êtes un sage, parce que vous dites oui, même quand vous pensez non, et quand vous pensez...
Oui, je dis non.
Voilà, c'est ça.
Non, mais il y avait plusieurs personnes qui sont passées qui n'étaient pas très contentes quand même. Et puis, vous avez dit, Philobert, que les gens ne sont pas collectifs, ils pensent à leur petite assiette.
Exactement. Alors, les gens, ils ne savent pas se mettre ensemble. Ils ne veulent pas comprendre que le système doit changer. Ils ne veulent pas comprendre qu'il faut mettre ensemble, comme le système de sécu, qui fait partie du système général. C'est-à-dire que. On appelle ça comment ? Il a donné le nom Macron, c'est... Répartition. La répartition.
Voilà, le système par répartition,
meilleur...
oui.
Voilà, c'est le meilleur système pour pouvoir se mettre ensemble, donner un euro pour pouvoir éradiquer quelque chose, c'est très simple. Alors, mais les gens trouvent toujours qu'on leur a enlevé un euro. Mais un euro pour sauver une situation, c'est rien du tout. Mais si on est tous à donner un euro pour sauver une situation, est-ce qu'on arrive facilement?
Un euro plus un euro, ça fait vite 2 euros, en fait.
Voilà, effectivement. Mais en France, si vous demandez aux gens 2 plus 2 égale à combien, personne ne vous répondra. Ils vont dire, il y a peut-être quelque chose derrière, peut-être Mitterrand va revenir, parce que c'est que j'ai
déjà fait. Non, il y a peu de chance. Non. Oui. Bah écoutez, merci, monsieur. Je vois que ça attaque très très vite, là, ce matin. Déjà, on est dans la reconstruction, on est déjà dans le programme, dans le fond. On est plus dans... on ne commande plus juste le vent, hein. On commente le fond.
Effectivement.
Au milieu de ces milliers de journaux, de ces... Combien 3000 ?
4500.
4500. Et combien en connaît-on vraiment, hein, Philibert ? Combien connaît-on de tous ces journaux ? Que sont-ils devenus les autres ?
Ils sont tournés dans l'euro.
Ils sont retournés dans l'euro, tous ces journaux.
Oui.
Qu'est devenu Yacht Magazine ? Qu'est devenu Le Monde du Rail, Étoile, Les Yettes et Tricots ?
C'est fini, ça.
Qu'est devenu Pif Gadget ? Qu'est devenu Spirou Magazine ?
Pif Gadget est revenu en force, hein.
Il est revenu en force et puis il a redisparu au coin de la rue dans l'indifférence générale. Et ses suppléments, livres, économie, ses pages rouges, saumons et autres animaux marins. Que sont-ils devenus tous ces quotidiens froissés, ces matins de Paris, ces quotidiens ? Que sont-ils devenus ces mensuels coffre-fort magazine, déco, île de Ré ? Qui ira encore chercher quelques érotos pornographiques planqués là-bas au fond ? Et puis mettez-moi aussi Le Monde et Newsweek magazine pour rassurer la marchande. Que sont-ils tous devenus, ces magazines, ces papiers froissés, ces arbres morts pour rien, et nos doigts salis pour toujours, le goût de l'encre. Salut, on achètera encore chez vous, Philibert. Je me trompe même de voyelle ce matin.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Manon, on va parler un petit peu entre adultes pendant que maman n'est pas là. Qu'est-ce que c'est que ce bleu que tu t'es mis sur les doigts, là ?
C'est du vernis.
C'est du vernis que tu t'es fait quand, alors ? Hein ?
Samedi.
Samedi, mais tu l'as fait en cachette ou tu l'as fait avec tes parents ?
J'ai fait avec mes parents. Avec
elle était d'accord, parce qu'elle aime bien quand tu te mets du vernis. Et à l'école, on peut avoir du vernis sur les doigts ?
Pas vraiment.
Pas vraiment. Donc c'est aujourd'hui la rentrée, tout à l'heure ? C'est quoi le risque qui peut te gronder ? C'est les autres copines qui peuvent rigoler ou c'est la maîtresse qui veut te gronder plutôt ?
Bah, putain, maîtresse.
Et qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va couper tes doigts, non ?
Non.
Elle va dire, mets des gants, des moufles ?
Non.
Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire ? Cache tes mains dans tes poches ? Va acheter des ongles au marché aux ongles ? Donc il peut rien se passer de très grave finalement. Donc c'est pas. Alors c'est Atmel, je sais que vous étiez en week-end.
Oui, mais ma fille était avec. Oui.
Votre fille.
Ils ont regardé Le Bon Gros Géant.
Le Bon Gros Géant, c'est quoi ça ?
C'est BGG.
Ah, c'est le BGG. Bah, oui,
c'est
oui,
le BGG.
BGG, en fait, oui, c'est... Ah, si, oui, c'est comme mon vieux.
C'est un vaccin qu'on mettait sur le...
BCG.
Oui, le BCG. C'est pareil.
Et donc ce poème-là, tu as eu cette idée ce week-end ? Il t'est venu ce week-end, ce poème ?
Bah, c'est tout à l'heure, on a imprimé ce poème.
D'accord. Donc, on a fait travailler déjà.
On a imprimé, ça veut dire imprimé dans la tête.
Alors, on va l'écouter, ça s'appelle L'Artiste. On t'écoute. Parle bien près du micro, chérie.
Il voulut peindre une rivière, elle coula hors du tableau. Il peignit une pigrièche, elle s'envola aussitôt. Il dessina une dorade. D'un bond, elle brisa le cadre. Elle peignit ensuite une étoile. Elle mit le feu à la toile. Alors, il peignit une propre au milieu, même du tableau.
Il peignit quoi ? Une
porte.
Ah, une porte, oui.
Elle s'ouvrit sur d'autres portes. Et il rentra dans le château.
On va le travailler un petit peu. On va le travailler un petit peu tous les deux pour que tu puisses le passer ensuite dans un cours de théâtre avec elle. Viens avec moi, regarde. Viens là. On travaille sur la première phrase, tu vois. À chaque fois, c'est l'idée qu'il y a... La première phrase, c'est un truc qu'il essaye, et ensuite, il y a une petite déception, d'accord ? Alors, la première phrase, c'est quoi ?
Il voulait peindre.
Alors, on est un petit peu enthousiaste comme lui. Il voulait peindre, vas-y, redis-le.
Il voulut peindre une rivière.
Voilà, attends, on reprend juste ça. Donne-nous envie. Qu'est-ce qu'il a envie de quoi? Il voulut faire quoi?
Il voulut peindre une rivière.
Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Elle coula hors du tableau.
Mais vas-y, dis-le-moi vraiment. Alors, il voulut peindre une rivière.
Mais elle coula hors du tableau.
Elle quoi?
Elle coula hors du tableau.
Mais c'est une très mauvaise nouvelle, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait?
Il peignit une pigresse.
Une pigrièche. Qui m'a foutu le mot pigrièche là-dedans?
Ben, je sais pas. C'est
pas possible aussi pour les enfants. Tu sais ce que c'est, une pigrièche? Ben non.
Mais moi non plus, je sais pas.
Et alors, la maîtresse, elle te fait apprendre le poème, elle t'explique pas chaque mot?
Mais c'est pas avec la maîtresse, normalement, que je le récite.
C'est avec qui?
Ben, on a imprimé tout à l'heure.
Mais tu le connaissais pas encore, ce poème? C'est très difficile aussi.
Oui, mais c'est...
Donc, on n'a pas eu le temps... Rolin, il saurait ça. Oui. Tu vois comment c'est une pie, mais peut-être que grièche, c'est une pie très particulière. Donc, c'est peut-être très compliqué de mettre ça dans un poème. On va peut-être changer la pie pour la suite.
C'est par rapport aux couleurs, je crois.
En tout cas, c'était très, très bien. Bravo, Manon.
Oui.
Je t'embrasse très fort et tu me tiendras au cou. Ah, attendez, on a pie grièche, là. Une pie grièche, c'est un genre de pie qui fait mal. Ah, ça se dit aussi d'une femme méchante et acariâtre.
Oh, mais ça, on savait, une pigrièche.
C'est un type de pie qui ressemble à un passereau, mais c'est aussi une dame très méchante. Double sens dans ce poème, c'était un piège. Très bonne école et cache tes ongles dans tes poches tout à l'heure. Maintenant, on t'embrasse.
À très vite.
7h-9h. Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
Ah oui, mais on a pris nos petites habitudes. Le dimanche, poule au pot. Le samedi soir, une cuite. Et le mardi, François Rolin. Mais vous n'êtes pas là, François Rolin?
Ben non, je suis à Rennes.
Ah oui, ben...
Rennes.
Mais bon, c'est pas une excuse. Je ne suis pas là, c'est parce que je suis à Rennes.
Ben, c'est quand même plus noble que d'être à Mulhouse.
Ah bon? Pourquoi?
Eh bien, parce que le dicton le dit bien, Rennes est plus noble que Mulhouse, non?
Non, attention, vous savez qu'on peut pas du tout... Vous savez qu'on est dans une époque très sérieuse, on peut pas du tout plaisanter sur des villes françaises. Après, il y a des guerres, il y a des procès.
Ah,
il y a le maire de Mulhouse qui écrit « C'est une honte, François Rolin a dit du mal de ma ville l'autre jour ». Il y a le maire de Rennes qui dit « Oui, mais c'est normal, on fait des gros efforts pour les vélos dans notre ville ». Vous voyez ça?
Ouais, d'accord.
Tout est très compliqué maintenant. Qu'est-ce que vous faites à Rennes, si c'est, enfin, qu'il soit dissible?
Eh bien, je tourne un clip pour un groupe, un jeune groupe qui s'appelle Sons of O'Flaherty, les fils de O'Flaherty.
Qu'on écoute là?
J'ai la passion, oui.
Ah oui, mais alors donc on vous voit marcher, à un moment il y a une femme qui vous gifle, comment ça se passe?
Alors, compte tenu de ce qui a été filmé hier, on me voit essentiellement prendre des bières dans la gueule.
Ouais.
C'est assez réjouissant.
C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui, dans la gueule?
Oui, oui, qui me jette des bières dans la gueule.
Et vous représentez quelqu'un en particulier?
Oui, c'est un personnage qui va se noyer dans un tableau. Un tableau marin qui ressemble un peu à un Turner. Et ce personnage alcoolique va se noyer dans son verre et dans le tableau à la fois.
Vous avez bien fait d'aller à Rennes, cher François.
Ouais.
C'est un groupe irlandais, c'est ça? Ça sent le pub, ce clip, non?
C'est-à-dire, il y a une inspiration comme ça, mais enfin, ils sont bretons. Comme,
oui, c'est celtique.
Oui, c'est voilà, celtique.
Voilà. Ces amitiés celtiques que fréquente François.
Voilà.
Que vous cultivez.
Vous nous parlerez ensuite de vos théories sur les druides et les menhirs. François, y a-t-il un animal du mardi?
Oui, alors, j'ai choisi le lion comme animal du mardi pour rendre un hommage affectueux à Jacques Do, un formidable comédien et humoriste, une moitié du célèbre duo Do et Catella. Vous avez peut-être entendu à la radio, et un ami très cher. Alors j'ai toujours trouvé que ce bonhomme-là avait une tête de lion, une bonne tête de lion. Eh bien, ce lion-là est mort brutalement vendredi dernier à la soirée de clôture du festival Comédie à La Réunion. Il a chanté Bobby Lapointe, il est sorti de scène et il s'est effondré en coulisses. La classe. Donc, Édouard, le lion. Il y a 30 millions d'années, à l'emplacement du boulevard Diderot à Paris, s'étendait un territoire occupé par les lions, un territoire si bien gardé qu'on l'a baptisé Gare de Lyon. Et c'est ce territoire qui a donné son nom à l'actuelle Gare de Lyon, boulevard Diderot à Paris. Le I de Lyon s'est transformé en Y par un phénomène assez cocasse, des penthèses de voyelles. Je n'en dis pas plus, vous avez tous un dictionnaire. Mais ce n'est pas le seul titre de gloire du lion. Le lion est également le sujet central et unique du premier très très court-métrage de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui nous donne à voir et à entendre un lion qui rugit, et puis c'est tout. Le lion est un ami personnel de Joseph Kessel, d'Armand Peugeot, du roi d'Angleterre Richard Cœur II,
et plus généralement de tous les gens nés entre le 23 juillet et le 23 août. Pour finir, Edouard, Jean-Michel Lelion sera peut-être le candidat aux prochaines législatives du mouvement La République En Marche dans la troisième circonscription de la Nièvre, mais rien n'est moins sûr. Je vous invite à vérifier, notamment auprès de Thierry Paré.
Je vous remercie infiniment, François Rollin.
On en a appris des choses. Hein.
On en aura appris des choses sur cette ligne Rennes-Paris. À bientôt, allez-vous prendre des bières dans la gueule.
À toi, oui.
Des Kilkenny.
Belle journée, cher François. À tout à l'heure pour quand même le jeu. Hein.
Mais bien sûr.
Merci, tonton.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baird.
Le journal de 8h.
Trois hommes qualifiés de dangereux sont donc dans la nature, enfin a priori, hein. De nombreux policiers armés de fusils d'assaut ont évacué la gare du Nord cette nuit entre 23h et 2h du matin pour procéder au contrôle d'un TGV en provenance de Valenciennes. 200 passagers ont été fouillés un à un, sans succès. Les trois hommes recherchés ont été signalés par un pays partenaire. Depuis vendredi, ces trois hommes ont aussi été signalés du côté de Bordeaux et de Marseille, déclenchant à chaque fois un important dispositif policier en vain. Plusieurs centaines de migrants ont été évacués de campement à la porte de la chapelle ce matin à Paris, donc à l'aube. Il s'agit de plusieurs centaines d'Afghans et de Soudanais. Ces campements illicites présentent des risques importants pour la sécurité et la santé de leurs occupants comme des riverains. C'est ce qu'a expliqué la préfecture. On connaîtra le nom du nouveau président ce soir. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h ce matin. On se lève tôt, hein, en Corée du Sud. Quand je dis on connaîtra le nom du président ce soir, ce n'est pas tout à fait juste puisqu'il s'agit du premier tour. Ceci dit, il y a un grand favori dans ce scrutin, c'est Moon Jae-in du Parti démocratique centre-gauche. Cette présidentielle, elle est organisée après l'éviction de la présidente Park Jung-hi, mise en cause dans un scandale de corruption. Cap sur les législatives en France, prochain défi pour Emmanuel Macron. Le nouveau président de la République a démissionné hier de la présidence de son mouvement En Marche, qui va devenir La République En Marche. C'est en tout cas sous cette étiquette que ses candidats se présenteront aux élections des 11 et 18 juin et on connaîtra leur nom jeudi. Auparavant, il s'agit de former un gouvernement. On serait tenté d'y voir un lien. Christian Estrosi, le président LR de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, a décidé de démissionner de son poste. L'ancien ministre annonce sa volonté de retrouver la mairie de Nice. Ma seule ambition, c'est de servir ma ville et ma région, pas d'entrée au gouvernement, a notamment déclaré hier Christian Estrosi. Et ce pour mettre un terme évidemment aux rumeurs qu'il annonce comme l'une des personnalités de droite qui pourrait rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron. S'il y a bien une personnalité à droite qui pourrait rejoindre le prochain gouvernement, c'est bien Bruno Le Maire. Il est absolument dans tous les médias en ce moment, ces dernières heures. L'ancien candidat à la primaire a d'ailleurs confirmé hier s'être entretenu avec Emmanuel Macron. Je vous rappelle quand même les résultats définitifs de cette élection présidentielle. Emmanuel Macron 66,10% contre 33,90% pour Marine Le Pen. Il y a eu près de 12% de votes blancs ou nuls. Il y a eu en outre plus de 25% d'abstention, soit l'abstention la plus élevée lors d'un second tour depuis la présidentielle de 69. Entre vote blanc, nul et abstention, un tiers des Français ont refusé de choisir dimanche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans le reste de l'actualité, notamment, dorénavant, aucun employeur de Colombie-Britannique, célèbre province canadienne, ne peut obliger une femme à porter des talons hauts sur son lieu de travail. Puisque, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est nouveau. C'est Christy Clark, la première ministre libérale de la province, qui l'a annoncé en évoquant une mesure discriminatoire et dangereuse. Mission très difficile, sinon impossible pour Monaco ce soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Monégasques sont attendus sur le terrain de la Juventus de Turin. La Juve s'est imposée 2-0 au match aller la semaine dernière. Et puis, ce sont les Stones qui vont inaugurer le nouveau stade de Nanterre-la-Défense en région parisienne. Et ce sera les 19 et 22 octobre prochains.
D'accord. Et Thierry Pasquet, l'astronaute, a voté par procuration. Il a été celui qui a voté le plus loin de la France.
C'est mignon, d'accord.
C'est, ah, c'est mignon, cette petite info là.
Très bonne anecdote, je trouve.
C'est bien placé en plus, un moment pas mal.
Ça permet de détendre aussi.
Mais, il s'appelle pas Thierry en revanche.
Et Thierry Pasquet.
L'astronaute. Thomas Pasquet.
Thomas Pasquet.
Oui, Thomas.
Bon,
Thomas.
Pesquet. Pesquet.
Et puis c'est pas.
Ça partait bien. Caché.
Et puis il a voté aux autres élections.
Ou ça, lesquels?
Et puis s'il n'est pas où vous dites. Et voilà. Puis c'est pas nous. Bon, enfin, sinon c'est bien. Et
puis il n'a jamais tué de chat. Ou alors c'est... Oui. Vous ne sentez pas bon.
Thierry paraît dans les rues.
Tu deviens néfant, tu deviens néfant, tu deviens néfant. Tu deviens néfant, tu deviens néfant, tu deviens néfant, tu deviens néfant. Arrête tes grimaces, arrête tes grimaces, arrête tes grimaces. Arrête tes grimaces, arrête tes grimaces, arrête tes grimaces. Tu deviens néfant. Tu deviens néfaste, pire qu'une enfant de gare, pire qu'une enfant de gare, pire qu'une enfant de gare, tu deviens néfaste. Tu deviens les vins. Bon, on est sur un parking.
Non, c'est bien. Il ne faut pas se mentir. C'est bien.
On est sur un parking. J'ai rencontré François. François a voulu traverser la rue en chantant cette chanson. Alors moi, j'arrive.
On ne va pas se mentir, François.
Tu deviens les vins.
Oui, non, mais la chanson est bien. Maintenant, de la. Oui. François, c'est bien. C'est une chanson qui s'inspire un petit peu de, comme les chansons de marin. On a du temps, donc on répète les phrases un peu, non?
Il faut marteler.
Il faut marteler, il faut que le message entre dans la tête.
Il faut marteler.
Il faut que le message entre dans la crâne du...
Voilà, il faut marteler sans arrêt.
Sans arrêt, répétez là. Tu devais aller va, tu devais aller va. Et là, je crois que ça nous est rentré dedans, oui.
Il faut marteler,
François. Vous avez raison, parce qu'il faut que ça rentre, quoi.
Ah oui, il faut marteler sans arrêt.
Parce qu'ils ne veulent pas comprendre, hein. Il faut que ça rentre. J'en parlais avec Maître Gims, il m'a dit, moi, je répète.
Il n'y a pas de droit lâche, il n'y a rien.
Il faut y aller. Ne lâchez pas l'affaire, François.
Il n'y a pas de fou, il n'y a pas de marche arrière.
Il n'y a pas, exactement. Une fois, on peut pas faire la machine arrière. On n'a pas assez d'essence pour faire.
Il n'y a pas de fou, il n'y a pas de marche arrière.
On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Alors on avance, hein, François.
On n'a pas le choix.
Mais on est obligé, il faut y aller.
On est condamné à avancer.
Il faut y aller, on avance.
On a avancé.
On y va en pente douce.
On fonce.
On lâche l'affaire. Ça roule comme une barrique. Vous glissez sur une luge ou vous roulez comme une barrique?
Je crois qu'il a glissé complètement là.
Alors, moi, foutez-nous la paix, Thierry, laissez-nous avec François. Tu comprends rien, toi, Thierry.
J'ai pas le droit de déraper.
Si, t'as le droit, François. Mais non, il a le droit. Mais vas-y, fonce, accélère, vas-y.
Je contrôle pas non plus de déraper.
Touchus. Il est où, mon champion? Il est où, mon François? Allez. Allez, on y va. On y va, c'est parti François, on y va, c'est parti, on se lâche, on se lance, on roule, on tourne boule, on accélère, on passe la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, et on y va et on lâche tout, les moteurs, le corps, les âmes, le cœur, on y va, on s'oublie, on s'abandonne, on accélère, on regarde pas derrière nous, on n'a pas de rétroviseur. Allez François, viens avec moi, allez accélère, glisse, la pente est savonneuse, mais quelle est belle la chute, quelle aura été belle, mon Dieu, quelles auraient été belles nos défaites, ah la défaite. T'avais un goût sublime. Tu devais aller, il a raison. Et on continue et on insiste. Et on martèle et on retourne toujours dans nos pas. Hélas, oui, je suis déjà passé par là. Bravo, François.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
2 heures d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Je suis à Saint-Aulay en Dordogne avec Geneviève Calraud. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Madame, quelle est la fois où vous avez voté pour la première fois?
Eh bien la première fois où j'ai eu le droit de voter, en 45.
En 1945?
Oui.
C'était la première fois que les femmes avaient le droit de vote?
Exactement.
Et depuis?
Je n'ai jamais manqué un vote.
Quelle était l'émotion en 45 de voter pour la première fois pour une femme?
Écoutez, j'attendais mon premier bébé. Je ne sais pas quelle date était le vote. Ma fille est née le 26 mai. Alors le vote était ou un peu avant ou un peu après, je ne sais plus. J'étais évidemment plus préoccupée de mon bébé que du vote.
Alors.
Mais j'étais contente d'aller voter et pour rien au monde, je n'aurais laissé ma place.
Alors, ça fait donc 70 ans que vous votez?
72
ans. Et au même endroit, toujours?
Ah, attendez.
Vous avez toujours voté au même endroit, en Dordogne?
Non, parce que j'habitais une petite commune, et après ça, j'habite... Je suis ressortissante du canton. Alors, c'est pas tout à fait le même point de vote. Ça, c'est à côté.
Alors, la première fois, vous n'étiez pas non plus si jeune, vous n'aviez pas 18 ans, puisque ça fait 72 ans que vous votez, mais on peut dire votre âge, hein, Geneviève, vous avez 101 ans.
Oui, c'est ça.
Et comment
j'avais donc 29 ans.
Vous aviez déjà 29 ans. C'est tout un rituel quand vous allez voter, tout le monde vous connaît, vous êtes bien accueilli?
Oh ben, tout le monde ne me connaît plus, parce que les gens de ma génération, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis.
Et vous arrivez à rencontrer des gens plus jeunes, à vous faire des nouveaux amis?
Oh ben, je rencontre des gens que je connais. Je connais beaucoup de gens. Mais souvent, ce sont des gens qui sont les petits-enfants de ce mandage.
Est-ce que vous sentez, suivant les élections, des atmosphères différentes au bureau de vote?
Pas beaucoup. Le bureau de vote où je vais, les résultats sont ceux de la France.
D'accord, vous votez vous, comme le reste des Français à peu près.
Comment?
C'est une ancienne école, qu'est-ce que c'est?
Ah non, c'est le château du Dieu.
Ah, on vote au château?
Voilà.
C'est assez beau. Et quand vous ne votez pas, Geneviève Calraux, comment se déroulent vos journées?
Ben, ça dépend. J'ai eu très longtemps des vaches.
Oui.
Donc, je suis cultivatrice. J'ai un brevet d'études supérieures agricole et ménager, ce qui me fait beaucoup rire parce que agricole, très bien, mais ménager, je suis loin d'être une ménagère. Je fais l'indispensable, un coup de balai, et puis voilà, ne demandez pas d'avoir un plumeau, ni de...
Non.
Ni de tirer les pieds de chaise.
Je ne vous le demanderai pas, madame. Et alors, je ne savais pas que ça existait, alors, un diplôme d'études ménagères.
Attendez, vous allez trop vite.
Pardon, non, je ne savais pas que ça existait, diplôme d'études ménagères. Donc, vous vous êtes occupé de vos vaches?
J'ai trait les vaches à la main depuis 51 ans, et là, je crois que je suis une championne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça si longtemps.
Vous avez eu des canards aussi?
Ah oui, des canards. Jusqu'à ce qu'il y ait une épidémie terrible qui me les dessine. Et les vétérinaires se sont moqués de moi parce que j'avais un cousin qui était dans les recherches et qui m'avait dit qu'il y avait une nouvelle maladie qui s'appelait l'aspergillose. Et le vétérinaire s'est moqué de moi et m'a donné des médicaments pour toute autre chose et j'ai perdu tous mes canards.
Ah bon? Mais là, vous vivez toujours, vous vivez seul en campagne, là?
Oui, mais je suis très, très bien entourée. J'ai 7 enfants. Non, pardon, j'ai 3 enfants, 7 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.
Et vous écrivez aussi, Geneviève Calraux, j'ai vu que vous étiez membre de l'Association des écrivains paysans.
Mais oui, je suis très, très contente d'être dans cette association où je me suis fait beaucoup d'amis.
Donc il faut comment on peut y adhérer? Il faut prouver qu'on, il faut écrire et s'occuper de la terre en même temps.
Alors j'ai commencé à écrire, c'était en 1980. J'avais un cousin qui s'appelait Jean-Charles.
Oui.
Qui est malheureusement décédé et qui a eu un gros succès en écrivant La foire aux canques. Mais vous êtes probablement trop jeune pour vous...
Si, je me rappelle très bien, Jean-Charles, la foire au cran, quand je vois exactement ce que c'est, oui.
Oui. Alors, comme il habitait à côté de Paris et que sa mère habitait Bordeaux, quand il venait voir sa mère, il passait me voir. Nous étions très liés, parce que nous avions le même grand-père, et sur ses 8 petits-enfants, nous étions les 2 seuls, les 2 enfants aînés de ses filles aînées, nous étions les 2 seuls... qui avait le goût d'écrire qu'avait mon grand-père. Donc il a commencé à écrire très jeune, il avait 8 ans.
Ah oui.
Et moi je devais en avoir 14. Et nous avons commencé un roman ensemble.
Et là vous en avez écrit 5.
6.
6 romans. Alors là vous venez d'avoir 101 ans, là je crois, le 6 mai, c'est ça?
C'est ça.
Alors Geneviève Calraux, quels sont vos projets?
Oh, j'ai 200 projets. Mes projets, pour l'instant, ils sont très terre à terre. Il faut que je sème, il faut que je plante des haricots. Et malheureusement, je crains les gelées, il faudrait que je les couvre. Alors ça me fait beaucoup de travail. Et puis, ma vie a été empoisonnée ces dernières années par le gibier. Toutes les nuits, j'avais des chevreuils qui venaient détruire tout ce que je plantais. J'étais obligée de tout couvrir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça me fait. Il faut couper des bambous, les planter, mettre des filets, les arranger. C'est 10 fois plus de travail que de faire les semis et les sarclages. Or, depuis quelques jours, devant cette abondance, le fermier, les chasseurs, tout ça, se sont arrangés pour fermer à peu près les cultures. Parce que je ne cultive plus ma terre, j'ai pas besoin de vous le dire, à 101 ans,
oui.
Je conduis encore mon tracteur, mais je ne fais plus...
Ah oui, quand même.
Je fais juste mon jardin. qui est grand.
Et continuez d'écrire.
Ben, je suis empêchée de lire depuis à peu près 2 ans, ce qui m'empêche d'écrire. Je peux écrire une ligne, mais je ne peux pas écrire la seconde, je ne vois pas la première.
Il faut que la mairie vous envoie quelqu'un un peu pour vous aider.
Non, mais j'ai une famille extrêmement dévouée. J'ai un fils qui habite un peu plus loin, mais j'en ai un qui habite tout près. Il vient tous les jours. Et je trouve que c'est un grand dévouement de sa part. Quant à sa femme, c'est mon ange gardien. C'est elle qui m'emmène chez le docteur, qui s'occupe de tout. Enfin, mes papiers, je m'en occupe moi-même, mais il y a des choses que je ne peux pas lire. Alors, on me lit mes choses. Enfin, mes yeux vont mieux. Après, des piqûres dans les yeux. Le matin, j'arrive à lire un petit peu. Je lis l'évangile du jour quand il n'est pas trop long.
Sinon, c'est voilà. Bien, vous pouvez aller l'écouter. Geneviève Calvaux.
Je pourrais être aveugle, mais oui. Je ne suis pas aveugle du tout. Là, je suis dans ma chambre, je vois les poutres, je vois les anneaux qui me servent à faire un peu de gymnastique. Je vois dehors les arbres. Bon, ça pourrait être 1000 fois pire. Bon.
En tout cas, Geneviève Calvaux, merci de nous avoir répondu ce matin.
Attendez, je voudrais quand même vous dire quelque oui. chose. C'est que quand j'ai quelquefois, je parle à des enfants et je leur dis ceci. Dans la vie, vous n'avez que 2 choses dont vous êtes sûr, c'est que vous êtes né et que vous mourrez. Eh bien, dans ce laps de temps dont on ne connaît pas la durée, nous avons tous le travail à faire. Toute l'humanité a le même travail à faire. C'est d'essayer de rendre le monde meilleur et plus beau.
Merci Geneviève Calvaux. Quand nous aurons un coup de cafard, on vous imaginera sur votre tracteur à Saint-Olé-en-Dordogne. Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur.
Merci.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Alors, Marie Misset, vous allez suivre dès maintenant les conseils de Geneviève Calvaux. Vous allez nous rendre tout ça un peu plus beau.
40 ans de retraite.
Hein?
Elle a 40 ans de retraite.
Qui ça?
Geneviève Calvaux.
Oui. Parce ah ben bah voilà, tout est en point retraite.
Ah ben
bah
oui,
vous,
hein. Bah oui,
vous êtes le petit comptable des trucs, on est là, on part loin, on était dans la poésie, dans la beauté des choses, et vous comptabilisez les points.
Moi, je ne promets pas de la beauté. Hein.
Non.
Oh non.
Bon, enfin,
oh non.
Non, mais ce n'est pas la beauté directe, c'est la façon peut-être de la.
Qu'est-ce que vous promettez? Du sang et des larmes, mais au bout, la victoire.
Ah, c'est votre côté churchillien, Vémen.
Alors
remettez on est trop loin, il faut remettre le générique, Carmel, parce que.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Yo, Marie Misset.
Yo. Bonjour. Ce matin, dans les journaux, on ne sait plus où donner de la tête. Ni la politique, ni les médias n'ont les clés pour savoir de quoi seront faits les prochains mois. Ils s'accordent en ça avec l'article du New York Times sur la victoire d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a capturé le futur de la France. Mais qu'a-t-il donc fait de son passé? Un grand coup dans les partis. C'était la une de Libé qui annonce les difficultés à venir des Républicains et du PS qui commence par colmater les fuites vers le mouvement du nouveau président. Bruno Le Maire, républicain, fait partie de ceux qui sont susceptibles de rejoindre les rangs. Il regrette déjà, croit savoir le Figaro. À gauche, c'est au moins 2 anciens ministres qui sont présentés pour le rôle de Premier ministre. D'abord Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et président PS au Conseil régional. À droite, Anne-Marie Idrac, ancienne ministre de Chirac. C'est le Figaro qui nous raconte tout ça, alors que Bruno Le Maire, je cite, braque la droite, là où les élus socialistes qui s'en vont ne braquent pas le PS, hein, qui espère seulement faire 80 sièges aux législatives. C'est le Parisien qui nous le promet. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la victoire de Macron, c'est le coup de vieux qui guette tout le monde. Pour Le Monde, c'est Barouin qui tout d'un coup n'a plus l'air du tout jeune, avec sa mauvaise manie de s'accrocher aux vieilles antiennes, aux vieux partis, et de menacer Bruno Le Maire d'expulsion. L'homme qu'on appelait déjà plus Harry Potter a tout d'un coup pris de l'âge, nous dit-on. L'élection d'un type de 39 ans, cela rend tout le monde vieux, sauf Marion Maréchal Le Pen. Ça, c'est dans un article.
Elle était dans
sur
mon train.
FN, ah bah dis donc, elle avait l'air heureuse.
Non, mais j'étais très embêté. On n'est pas préparé dans la vie à croiser.
Elle était
dans le train Avignon-Paris, oui. J'ai changé de place.
Donc ça, c'est un élu FN qui le dit à l'heure des règlements de compte dans un article de Libé. De manière générale, ce matin, tout le monde déteste les vieilles habitudes. Dans l'édito du Figaro, on craint les vieilles habitudes socialistes. Bruno Le Maire prévient Macron, toujours dans le Figaro, contre les vieilles habitudes politiques. Comprendre entre les lignes l'habitude de ne pas le nommer lui. Même Robert Ménard, maire de Béziers, qui pourtant aime mettre des crèches dans des espaces républicains, en a marre des vieilles habitudes. C'est toujours dans le Figaro. Le FN doit changer de vêtements, faire des alliances, quitter ses oripeaux. Bref, on veut du moderne et même plus, peut-être du post-moderne. Justement, Libé consacre un article intéressant à l'avènement du préfixe post. On est au-delà du néo, on est dans le post. Post-genre, post-vérité, post-pop, post-internet, post-colonialisme, post-statistique, au risque de ne pas vraiment savoir de quoi on parle. Pour le cabinet de tendance cité dans Libé, le mot post donne une impulsion dynamique et sexy. C'est une nomenclature cool qui permet, tiens donc, de faire du neuf avec du vieux. Ça a aussi, souligne Gradia, un caractère qu'on espère un petit peu auto-réalisateur, comme si nous avions atteint cette ère merveilleuse où tout est dépassé, les genres, les problèmes liés à la couleur de peau ou à la classe sociale. Sauf que mettre le poste avant les bœufs, mettre le poste devant un mot, ne suffit pas, et la jeunesse sud-coréenne le sait bien. Dans Libé, on lit le parcours d'une jeunesse sud-coréenne en détresse après les grandes manifestations anticorruption de mars et qui ont surnommé la Corée du Sud, la Hell Joseon, la Corée infernale. Ils n'en peuvent plus, les jeunes sud-coréens qui exècrent l'oppression de la société sud-coréenne, des adultes qui n'arrêtent pas de nous dire de travailler plus, d'étudier plus, de croire plus au contrat social, de toujours faire plus et de faire mieux. Rien d'étonnant, nous dit une étudiante de 24 ans, à ce que le vase ait fini par déborder et que les gens soient descendus dans la rue. D'après elle, mardi auront lieu de nouvelles élections, mais après, continue-t-elle, il faut continuer absolument à défendre la normalisation de cette démocratie avec la plus grande transparence et un contrôle exercé par les citoyens. Cela prendra du temps donc, avant de pouvoir dire qu'on est dans le poste.
Merci, merci beaucoup Marie Misset. Non, je disais oui. Oui, j'ai croisé donc Marion Maréchal Le Pen. C'était à la gare d'Avignon, TGV battu par les vents.
Elle était en première ou en seconde ?
Elle était sur le quai comme ça, avec ce ciel très bleu que crée le Mistral, qui nettoie les nuages comme ça, qui bouscule les oreilles et l'intérieur des têtes. Je vois une femme blonde assise comme ça, par terre, contre la surface vitrée de ces gares en pleine campagne. Les gares TGV qui ressemblent à une sorte de gros vers de terre endormis dans la verdure. Je vois cette femme blonde qui avait l'air ou plaquée ou un peu triste, presque consolable par quelqu'un d'un peu hospitalier, la tête retournée. Puis je vais presque pour m'approcher, vous savez, ce côté samaritain, bien sûr. Puis je vois quand même un type très rasé, dans un costume carré, avec beaucoup de petits écussons au revers de sa veste. Et tout à coup, je me dis, elle est très protégée, cette femme. Et puis, son visage se redresse et je vois que c'est Marion Maréchal Le Pen. Et tout à coup, c'était assez étrange parce qu'il y avait plusieurs femmes en elle. Si on ne sait pas, si vous voyez juste une jeune femme qui a l'air d'avoir juste perdu quelque chose, qui s'appelle lorsqu'elle a les élections. Et puis après, si on rentre dans son âme, on voit des choses qui nous inquiètent plus.
C'était un ange de loin, et quand vous êtes rapproché.
Oui, mais c'est tout à coup, on se dit qu'est-ce qu'on ferait ? Parce que de tout contact possible d'homme à homme, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout, mais après, on est tenté de la sympathisation avec des gens qui représentent des choses qui vous effraient. Donc.
Non, mais arriver à faire de la poésie.
Courage qui ne me
arriver à faire
rien,
de la poésie avec Marion Maréchal.
Non, mais parce que c'est quelqu'un qui est là, on peut parler avec tout le monde. Enfin, ce qui nous rappelait qui elle était, c'était ce vigile un peu inquiétant,
cet
agent de sécurité. En sortant du train, il y en a un deuxième qui l'attendait. Voilà. Voilà. Salut.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Riparer dans la rue ?
Oui.
Mais non, aux infos, je crois plutôt.
Oui, alors voilà.
C'est l'info politique de la matinée. Manuel Valls entend se présenter aux élections législatives sous l'étiquette du mouvement La République en marche d'Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre de François Hollande a invité tous les députés sortants qui ont appelé à voter Emmanuel Macron à faire la même chose. Le Parti socialiste est mort, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de donner une majorité à Emmanuel Macron, sans frondeur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est lui qui le dit, bien sûr. Et d'ajouter, je n'ai pas d'ambition personnelle. Fin de citation. Auparavant, il s'agit de former donc un gouvernement. On serait tenté d'y voir un lien. Christian Estrosi, président LR de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, a décidé de démissionner démissionné de son poste. L'ancien ministre annonce sa volonté de retrouver la mairie de Nice. Ma seule ambition, c'est de servir ma ville et ma région, pas d'entrée au gouvernement, a notamment déclaré hier Christian Estrosi. Plusieurs centaines de migrants ont été évacués de campements à la porte de la Chapelle, à Paris, tôt ce matin, à l'aube. Il s'agit de plusieurs centaines d'Afghans et de Soudanais. Ces campements illicites présentent des risques importants pour la sécurité et la santé de leurs occupants, comme des riverains, c'est ce qu'a expliqué la préfecture. Trois hommes qualifiés de dangereux sont dans la nature. De nombreux policiers armés de fusils d'assaut ont évacué la gare du Nord cette nuit, entre 23h et 2h du matin, pour procéder au contrôle d'un TGV en provenance de Valenciennes. 200 passagers ont été fouillés un à un, sans succès. Les trois hommes recherchés ont été signalés par un pays partenaire. Depuis vendredi, ces trois hommes ont aussi été signalés du côté de Bordeaux et de Marseille, déclenchant à chaque fois un important dispositif policier, donc en vain. On connaîtra le nom du nouveau président ce soir. Les bureaux de vote ont ouvert, en tout cas à 6h ce matin. Alors, on se lève très tôt en Corée du Sud. Quand je dis on connaîtra le nom du président,
très bon,
c'était pas mal. J'aurais presque pu ouvrir avec.
Très frais, je trouve. Oui.
Alors, quand je dis on connaîtra le nom du président ce soir, c'est pas tout à fait juste, puisque c'est le premier tour.
En Corée du Sud, ça toute la... Parce que déjà, j'aurais pu imaginer, si c'est en France, c'est en France, et c'est ça qui est très joli. Et en Corée du Nord, on sait que c'est compliqué, qu'on le sait depuis 40 ans et pour encore 200 ans. Corée du Sud, c'est joli.
Favori du scrutin, donc en Corée du Sud, Moon Jae-in du Parti démocratique.
Ah, ça, vous les prononcez moins bien. Vous dites qu'on n'a pas la chance d'être arabe. On est maltraité par Thierry.
Il y a une hésitation entre le Moon Jae-in, alors que le Mohamed ou le Mohamed VI.
Atmen Kelly, voilà, vous le dites bien.
Très, très bien. Mais
bref, cette présidentielle en Corée du Sud est organisée après l'éviction de la présidente Park Jong-hee, mise en cause dans un scandale de corruption. Mission très difficile, sinon impossible pour Monaco ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais c'est encore possible quand même. Les Monégasques sont attendus sur le terrain de la Juventus de Turin. La Juve qui s'est imposée 2-0 au match aller la semaine dernière. Et puis ce sont les Stones qui vont inaugurer le nouveau stade de Nanterre à la Défense en région parisienne.
Ça, je m'en fous.
Ce sera les 19 et 22 octobre prochain.
Ils vont pas gagner Monaco parce qu'ils n'ont pas le ralliement du Dupont-Aignan.
Non mais Monaco, c'est pas en France. Arrêtez de donner les résultats.
Ah bon.
Alors c'est bon, on a fini.
Ah c'est bon, on a fini.
On a un petit peu avec Jacques souvent dans la rue ou pas?
Oui.
Elles font quoi? Vous faites draguer? Vous faites draguer quand il y a les...
Ça peut arriver.
C'est pour qu'elles payent pas le dépannage.
Non, j'ai pas dit ça.
Si, j'ai dit ça.
Bon, elles essayent en l'occurrence, mais bon. C'est pas joué d'avance. Nous, on a des appels police et on a un livret à tenir. Et on a des comptes sur toi à rendre. Donc du coup, on se fait payer avant tout.
Vous voulez pas qu'on en parle à l'antenne, c'est ça?
Non, du tout, parce que je fais pas partie de ce genre-là. Donc du coup, on dépanne. Et on reste que dans ce sens-là.
Dépannage ou fourrière, monsieur?
Dépannage.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
C'est pas les mêmes, la fourrière et les...
Ah non,
les...
du tout, non. Non. Non, du tout.
Donc vous êtes dans le service à la personne. Hein. Vous vous êtes attendu comme le messie, tandis qu'évidemment, la fourrière...
C'est ça, c'est l'inverse. La fourrière, ils sont reçus avec des pierres et nous, on est reçus avec, avec de la sympathie.
Vous dépannez où, monsieur?
On est sur le périph', côté Bercy jusqu'à Porte de la Chapelle.
Ah oui, c'est chaud les interventions sur le périph'.
Oui, on a un délai moyen de 30 minutes d'intervention. Donc c'est vrai qu'avec les bouchons, tout ça, on essaie de faire assez vite. Mais sinon, après, on nous laisse libre accès. Donc gyro, sirène, ça nous laisse passer plus aisément.
Il y a des bandes d'arrêt d'urgence sur le périph'?
Très peu.
Ah oui.
Il y a moins de boulot en ce moment.
Il y a moins de boulot qu'avant, ouais, effectivement. Ouais. Dû au changement de parc automobile français. Donc, des véhicules plus récents, plus modernes. Donc, le parc est plus neuf qu'avant. Donc, du coup, les gens ont moins de panne, ont plus d'assistance. Et donc, moins de panne pour nous.
Je suis en panne sur le périph. Je vous appelle, vous allez me prendre combien?
Non, du tout. Vous m'appelez pas moi, en fait. Ah. Vous appelez des bornes orange.
Oui.
Donc là, du coup, vous allez tomber sur les CRS et par ce biais-là, nous, on nous contacte. Vous tombez sur notre centrale et la centrale nous redonne l'appel.
Et au final, ça va me coûter combien cette histoire?
Bah, le plus souvent, ça va vous coûter pas grand-chose parce que c'est pris en charge par l'assistance.
Oui. Mais c'est facturé combien?
Bah, c'est aléatoire. Si on vous sort du périph en première sortie pour un véhicule léger, on a 123,90 €.
D'accord, donc ça, ça va être pris par les assurances beaucoup.
Bah, si à partir du moment où vous êtes assuré assistance, 0 km, si vous êtes bien, ou même 50, si vous êtes à 50 km de chez vous, vous êtes pris en charge par votre assistance.
Non, c'est Thierry pareil qui voulait savoir. Ça vous va, Thierry?
Oui, enfin, il a été long à donner le chiffre. Hein,
oui, mais c'est normal parce que c'est aléatoire, non, ça dépend de plein de choses.
Tout dépend de. En fait, ça dépend du poids du véhicule.
Bien sûr, parce qu'en piéton,
ça dépend de l'heure. Si ça dépend de l'heure aussi, de l'horaire. Si on a un tarif de nuit, c'est pas la même chose qu'un tarif de jour.
C'est intéressant, il y a beaucoup de critères. Hein.
Ouais. Le week-end, jour férié, ça dépend de plein de choses.
Là, si je suis en piéton, si je suis en panne et que je suis piéton, par exemple, si j'ai plus envie d'avancer.
Ça dépend de ton poids.
Oh, bah, là, il faut changer de basket. Hein.
Oui, mais si ça vient de l'âme, si j'ai plus envie, si à un moment, vous savez, je suis dans ma vie, j'avance, je cours, puis à un moment, j'ai plus envie.
Bon, bah, il faut marcher en reculant. Il faut savoir reculer pour me sauter. Donc, vous marchez en reculant, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous faire ramasser par un véhicule venant de face.
Merci pour ces proverbes qui vont me souvenir. Merci, les gars. Bonne journée sur le périph.
J'ai pas fini. Oui. Une toute petite dédicace pour la CDR. C'est ma société, donc le groupe Jean Jaurès. Gros bisous à tout le monde.
Gros bisous au groupe Jean Jaurès et à Jean Jaurès lui-même.
SNCDR surtout.
SNCDR, d'accord.
C'est ça. Allez, marchez à reculons. On y va.
Salut les gars. Au revoir.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Il fait une chaleur dans cette émission.
Oui, mettez Gérard Courtois, oui, mettez le casque, bien sûr. Parti de campagne, la saga des élections présidentielles, c'était paru là aux éditions Perrin, il y a un peu plus d'un mois. Toutes les grandes campagnes présidentielles, ce qui s'est passé, les secrets, l'apparition de la publicité, du marketing en politique. Là, on évoquait d'autres campagnes centristes avant Macron, on parlait de Savant Schreiber, on a parlé d'Alain Poher, et vous me disiez, Jean Le Canuet, c'est la première campagne centriste un peu moderne, un peu marketée. Contre De Gaulle, c'est 65 ?
65, complètement marketée. Jean Le Canuet rentre en lice parce que les centristes n'ont pas de candidats, ils en ont essayé plusieurs, ça ne marchait pas. Le Canuet, qui est le président du parti, y va, et il n'a personne pour organiser sa campagne. Et donc, il y a des publicitaires qui ont organisé le lancement du premier James Bond, qui se disent, au fond, on pourrait essayer de voir si les techniques de marketing qu'on a utilisées peuvent marcher pour la politique. Alors, ils contactent De Gaulle, bon, ils n'ont pas de réponse. Ils contactent Mitterrand, ce n'est pas son genre. Et le Canuet accepte. Et ils lui font une campagne à l'américaine, et en 15 jours, 3 semaines, il décolle, il arrive à plus de 20%, bon, finira un peu plus bas. Mais c'est quand même largement lui qui contribue à mettre De Gaulle en balotage.
C'est ça, la grande surprise, c'est que De Gaulle se dit « je n'ai pas à faire campagne, les gens savent qui je suis ». Et tout à coup, c'est quoi des techniques à l'américaine, Gérard, pour toi ?
De Gaulle dit à Perfide, qui lui dit « mon général, il faudrait peut-être quand même utiliser un peu la télévision. Il dit, quoi, vous voulez que j'aille devant les Français en pyjama ?»
C'est ça, parce qu'il y a un côté intime dans la télévision qui avait l'air de sortir de l'image de grandeur d'un président.
Et au deuxième tour, une fois mis en balotage, il comprend qu'il faut quand même un peu y aller, et il fait des émissions époustouflantes.
Il enlève ses lunettes, il arrête de lire ses discours.
Oui, et puis il se fait interroger par Michel Droit.
Par Michel Droit, qui est quand même un proche. Oui.
Et il y a un match à distance. Alors on dit les débats aujourd'hui, on a vu récemment, mais le match à distance à l'époque, d'un jour sur l'autre, entre Mitterrand et De Gaulle, c'est des moments d'anthologie.
Alors ça, c'est une des premières grandes campagnes présidentielles françaises. Pour passer du coq à l'âne, là, qu'est-ce que vous avez pensé de ce retour d'un rituel un peu grandiloquent, de chercher l'émotion comme la traversée d'Emmanuel Macron, la traversée de la pyramide et du Louvre par Emmanuel Macron sur du Beethoven?
C'est très... D'abord, les cérémonies, enfin, ou la mise en scène de la... non pas de l'entrée en fonction, on verra, ça c'est autre chose, mais du soir de victoire, c'est quelque chose d'assez récent. Au fond, la première vraie cérémonie, mais qui est populaire et qui est spontanée, enfin pas tout à fait spontanée, c'est la fête à la Bastille, le soir de mai 81, où Mitterrand l'emporte, et où la gauche l'emporte, et tous les Parisiens se précipitent à la Bastille. Et puis ensuite, il y aura Sarkozy organise un concert à la Concorde, etc. Là, moi, ce qui m'a frappé, c'est que... il y a énormément de clins d'œil, de connotations avec la prise de fonction de Mitterrand en 81, l'ode à la joie, la marche solitaire, etc., le Louvre, le Panthéon, enfin bon. Sauf que Mitterrand, c'était le jour de sa prise de fonction. Là, c'est le jour de la victoire, et il n'y a aucune liesse populaire véritable, spontanée. Il y a quelque chose d'organisé, contrairement à la Bastille, où il y avait eu un vrai mouvement d'élan, de bonheur, autour de la victoire de la gauche.
Vous n'êtes pas laissé enthousiasmer, Gérard Courtois. Bernard Zécry.
Mais comment sait-il que cette élection a intéressé le reste du monde?
Toutes les élections présidentielles étaient vraiment... rien n'était prévu ou rien n'était prévisible. Beaucoup de choses étaient surprenantes. Et celle-là, c'est le coup de théâtre permanent. Je veux dire, n'importe quel producteur, on lui aurait proposé un scénario comme ça il y a 6 mois, il aurait dit, attendez, non, ça c'est pas sérieux. Il y a eu une dramaturgie formidable, inouïe, surprenante. Les primaires ont donné des résultats qui n'étaient pas du tout les résultats imaginés encore un mois avant les élections. Ensuite, on a eu le surgissement d'un candidat inconnu il y a encore 3 ans, Macron. Ce duel de deuxième tour qui était quand même, on va dire, baroque, pour pas être désagréable.
Alors, des élections à 2 tours, est-ce que ça existe ailleurs qu'en France, d'ailleurs ?
Des élections à 2 tours, alors ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas aux États-Unis. Vous me posez une colle parce que sûrement ça existe quelque part, mais en tout cas dans les grands pays, non.
Bon, alors arrêtez, Bernard.
Mais est-ce que c'est pas ça, le fait qu'il y ait 2 tours qui donne justement ce côté série, quoi. C'est quasiment mieux que House of Cards, parce que du coup, ils sont obligés de faire des calculs.
Il y a plus de tours maintenant, parce qu'il y a des primaires à droite et à gauche.
Cette année, on a une élection à 8 tours. Oui. Hein. 2 tours de primaire à droite, 2 tours de primaire à gauche, 2 tours de présidentiel, 2 tours de législative.
On est crevé.
Donc dans 2 mois, on sera rincé.
Bon, on l'est déjà peu. Dites-moi, vous qui avez vu, qui étudiez là dans votre livre Parti de campagne, toutes les élections depuis le début de la 5e, depuis 1965, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un déplacement ? Est-ce que les campagnes d'après vous aujourd'hui sont encore sur le terrain, en battant la campagne, à la télévision, sur Internet ? Est-ce que ça, il faudra continuer à aller ce qu'on appelle sur le terrain, ou est-ce que ça va s'éloigner de plus en plus ?
On va sur le terrain. Alors, autrefois, parce que c'était la vieille règle républicaine d'aller parler dans les préaux ou sous les préaux. Là, on va sur le terrain pour faire des images, quand même, principalement.
Pour faire des images.
Et moi, ce qui me frappe, c'est que la télévision reste le média absolument majeur de ce rendez-vous électoral et présidentiel.
Parce qu'on avait annoncé l'arrivée des réseaux sociaux.
Oui, ça joue, ça complète. Mais tout ce qui s'est passé d'essentiel s'est passé à la télé. Les débats pour les primaires, comme le débat pour la présidentielle, les grands meetings et leur mise en scène à la télévision... J'ai l'impression quand même que la télé reste le média noble de cette joute présidentielle.
Alors cette 10e élection, cette 10e campagne, c'était une campagne de première. Donc d'habitude, le vainqueur, il a une large majorité aux législatives. Est-ce que là aussi, il va y avoir des différences avec ce qui s'est passé avant ?
C'est une question vitale pour le président élu, pour Macron. Maintenant, c'est quitte ou double, si je puis dire. Il a gagné son pari de la présidentielle, il faut gagner un deuxième pari, c'est d'avoir une majorité à partir de rien, à partir de lui-même, et à partir du mouvement qu'il a lancé il y a à peine un an, et des ralliements, on vient d'en voir un spectaculaire ce matin avec Valls, des ralliements autour de lui. Ça n'est pas gagné du tout. Alors, par exemple, le Mitterrand en 81, quand il n'a pas de majorité a priori, puisque avec les communistes, les socialistes s'empoignent comme des sauvages. Et quand Giscard ne cesse de le harceler en lui disant « Monsieur Mitterrand, vous n'aurez pas de majorité pour gouverner », il a cette espèce de réponse à la Mitterrand « J'aurai un état de grâce et les Français seront assez intelligents pour me donner les moyens de gouverner ». Macron dit la même chose depuis 3 mois. « Les Français seront assez cohérents pour me donner une majorité ». Sauf qu'en 81, il y avait un immense mouvement aspiration unitaire de l'ensemble de la gauche. On est dans une situation exactement inverse. Il y a 4 forces dans le paysage, la gauche, la droite, le centre, disons l'extrême centre de Macron et l'extrême droite, qui pèsent à peu près la même chose, mais aucune ne veut passer d'alliance avec les autres. Donc c'est une situation totalement inédite.
On a dit que la 5e était fatiguée et qu'on on était à bout et qu'il y allait avoir un changement de régime. Est-ce que c'est annoncé dans cette élection ?
Je ne crois pas que ce soit annoncé dans cette élection. Ça a été demandé, exigé par certains candidats, notamment Mélenchon. Mais moi, ce qui me trouble toujours quand on dit qu'il faut une 6e République, c'est qu'il faudrait au préalable qu'on explique aux Français qu'on va leur enlever le droit d'élire le président. Or, j'ai un doute sur le fait qu'ils acceptent. Quand on donne un droit aux Français en général, non seulement ils l'exercent, mais ils veulent le conserver. Donc, je n'ai pas encore compris comment on pourrait faire cette mutation.
Gérard Courtois, merci. Vous, depuis le temps, vous suivez ces campagnes électorales pour vous, pour écrire ou pour Le Monde. Est-ce que vous sentez chez quelqu'un une stature particulière? Est-ce que c'est quelque chose qui... Vous avez un instinct de ça, vous dites, tiens, lui, il a quelque chose, ça deviendra quelqu'un, c'est un président de venir. Est-ce qu'il y a des personnages dont on sent ça?
Je vais avoir l'air un peu prétentieux, mais j'ai toujours pensé, bien avant 2012, que François Hollande serait le candidat du PS et qu'il aurait toute chance d'être élu. Par exemple, pour des tas de raisons, être président, c'est pas seulement une question d'allure, c'est donner aux Français, donner aux gens le sentiment qu'on les comprend, qu'on les connaît, qu'on les aime, qu'on va s'en occuper, qu'on connaît la France par cœur et de manière intime. Et ça, il n'y a finalement pas beaucoup d'hommes politiques qui sont capables de donner cette sensation et de faire partager cette sensation.
Mais donc, vous avez dit Hollande, vous n'avez pas dit Macron.
Si, je pense que Macron, mais alors il est post-moderne, Macron. il est tombé du nid il y a un an.
Oui. C'est
totalement déroutant.
C'est maintenant qu'il doit montrer aux gens qu'il connaît ce qu'on appellerait la vie des gens.
Et pour oui, alors il y a à la fois la gravité, il l'a montré dimanche soir, il l'a mise en scène dimanche soir, ou hier avec Hollande pour la cérémonie du 8 mai, et il a une capacité d'empathie, tout le monde le sait, tout le monde le dit, avec le premier venu, qui est assez rare. Donc il a ces deux... atouts, maintenant, reste à les mettre en musique.
L'enthousiasme et le sens du tragique dont parlait Mitterrand pour se moquer de Giscard, qui disait qu'il ne l'avait pas.
Ça, je ne sais pas s'il a le sens du tragique, il est peut-être trop optimiste pour ça.
Merci Gérard Courtois. Merci Tonton Zécri.
Merci.
Je peux monter dans ton bureau au quatrième étage.
7h, 9h, plus près de toi.
On va
plus près de toi. Édouard Baird.
Oui, alors pendant que Frédéric Toots and the Metals, une des meilleures prononciations anglaises, va s'installer, François Rollin, toujours à Rennes?
Oui, toujours, oui.
François, c'est le jeu Rennes-Paris, là, quel est le jeu du jour?
Alors, mon grand-père disait toujours, rien de tel entre la présidentielle et les législatives qu'une petite belote.
Ah bon?
Bon, oui. C'est très con, à vrai dire, hein, comme dicton, mais c'est ce que disait mon grand-père, alors respect, hein.
Ok.
Alors, Edouard, une petite belote, je donne les cartes. Maintenant, dans ma main... À pique, le roi et l'as, à cœur, le 7, le 8 et le 10. À carreau, le 10, le valet et la dame, et j'ai pas de trèfle. Alors, dans votre main maintenant, Edouard, comme vous êtes à ma droite. À pique, le valet, le 10 et le 7. À cœur, le roi et le 9. À carreau, l'as, et à trèfle, la dame et le 7. En tournant, dans la main d'Atmen.
Oui, je l'ai.
À pique, à cœur, la dame et le 7. À carreau, le 8 et le roi. Et à trèfle, le roi, le valet et le 9. Maintenant, c'est Armel qui va jouer. Armel, c'est à vous l'entame. Quelle carte jouez-vous?
Dame de pique.
Ah non, c'est moi qui
l'ai. Réponse, Armel, mauvaise réponse. Vous deviez poser vos cartes sur le tapis et quitter furieux la table de jeu, car il y a deux sets de cœur dans le jeu, et ça, c'est de la triche, c'est pas du jeu.
François, merci, je me sens, vous m'avez élevé.
Oui.
Bon Rennes à vous, François, salut.
Oui, plein merci. De baisers.
Et puis l'auditeur est gagnant, bien sûr. Je vais chercher pendant ce temps-là Frédéric Toots, Mr. Toots, qui est juste, il a très froid, il est là, Mr. Toots. Hey, what the fuck? What are you doing, man? Come with me. How are you?
Hey.
Ça va? Toots, yeah. Monsieur Toots est là, juste à côté. What are you drinking, sir?
Qu'est-ce I'm qu'il drinking boit? Iced tea, man.
Un thé glacé, le ice fameux tea. Thé glacé jamaïcain. Welcome to Mr. Toots. Ah, bah, si on accueille Frédéric Toots qui arrive, qui était un peu au chaud parce qu'il y a du monde, mais il fait très froid. Je le laisse s'installer pendant que... Rappelez-nous la légende qu'il a ce matin, cher Rudy.
Exactement, Edouard. Ce matin, c'est tout simplement une légende que nous recevons. Ce matin, nous avons l'immense honneur d'avoir à nos côtés, là juste face à nous, Monsieur Frédéric Toots Hibbert, plus connu sous le nom de Toots and the Maytals, nom du groupe qui l'a accompagné une grande partie de sa carrière. Ne soyons pas affables sur les superlatifs, car aujourd'hui, il se justifie. Toots, c'est tout simplement les fondations de la musique jamaïcaine. Toots, c'est l'âme même du reggae. Et le reggae lui doit bien ça, puisque historiquement, et tout le monde semble être réellement d'accord sur ce point, l'apparition, l'invention même du terme reggae vient d'un morceau de Toots en 1967 intitulé « Do the Reggae ». Alors que dire après ça, à part continuons à danser, chanter, comprendre le reggae et ses dérivés, le ska, le rocksteady, le calypso, comme l'une des musiques les plus importantes de ce siècle, et profitons-en ce matin. matin plus que jamais. Et puis pour l'anecdote, la dernière fois que Toots a parlé dans un micro de Radio Nova, c'était pour l'inauguration du Bizo Bar à Horacabeza en Jamaïque, dans l'hôtel de Chris Blackwell, l'autre personnage fondamental du pays et de la musique. Ainsi, je reprendrai les mots de Chris Blackwell pour parler de Toots. Je connais Toots depuis plus longtemps que n'importe qui, bien plus longtemps que Bob Marley. Toots est un des êtres humains les plus purs que j'ai rencontrés dans ma vie. Pur, presque à l'excès.
Pendant ce temps-là, il y a une petite... Est-ce que c'est à GoldenEye, la maison de Chris Blackwell, où on a tourné le James Bond GoldenEye?
Tout à fait, exactement. Edouard, c'était juste après le décès de Jean-François. Chris Blackwell, grand ami de Jean-François et grand Manitou du reggae, qui a fait exploser le reggae hors de la Jamaïque, via Marley, via Toots, avait invité Radio Nova à inaugurer ce Bizo Bar qui diffuse du Radio Nova 24/24 dans cet endroit qui est absolument magique.
On en est où de la balance? What about the sound, guys?
Okay. Okay.
Yes, sir.
Il va, on a cet honneur, il va nous interpréter dès qu'il sera prêt, peut-être ou pas, je ne sais pas.
Non, il n'y a pas de... Je vais aller voir ce qu'il passe. What about the sound?
Edouard va mettre les mains dans la technique.
What do you think?
On y est presque.
C'est le jeune Manu qui s'y colle là. On essaie toujours de faire cette balance. Plus de 19 employés de Radio Nova, stagiaires, patrons, des très très grands noms du son s'y mettent. La platine Marshall est à son meilleur. Des gens s'empoignent de l'équipe de Toots avec l'équipe de Nova.
Et théoriquement,
ça commence
on devrait
à
avoir
chauffer, l'impression. Là, je peux te dire, un pain est parti, des coups dans la gueule pleuvent, une femme pleure, un enfant rêve, un chien aboie, une caravane passe.
Un Edouard en impro. Toots, Monkey Man?
Yeah, we can do that.
Wow, thank you.
Thank you, sir.
You ready?
Monkey Man,
yeah,
écran 69.
Everybody is ready? Yeah!
Toots, un de mes pères ici, légende du reggae, merci. Et nous on se retrouve avec grand plaisir demain à 7h, salut.
Edouard Baird.
7h, 9h.
Plus près de toi.
Point final.